Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Yoann Durand, le maître Yodu, celui qui fera trembler le monde du marathon demain à Séville. Salut Yodu.
Hello boy, how are you?
Au moment de la sortie de l'épisode, tu feras moins le malin mon gars. Tu seras en veille
ça
de course.
Sûr. Et ouais. Ça c'est sûr.
Et voilà.
Il y aura un peu plus de stress.
La veille d'une échéance importante pour toi, le marathon de Séville, avec ce rêve des minima olympiques. Tout ce qu'on te souhaite, Yodu, en tout cas.
Merci, mais ça changera pas mon quotidien. Je ne suis pas stressé de nature, donc je ne le serai pas non plus samedi.
Ça, je peux vous le confirmer, ça m'étonne pas. Bon, merci à tous pour le soutien. C'est encore le moment d'ailleurs, si vous voulez postuler pour la tentative de record du monde qu'on met en place. Vous allez sur rmc.fr, vous rejoignez le club RMC Running sur Strava et vous avez toutes les indications. Vous vous dites pourquoi Yoann Durand a parlé en anglais? Parce que cet épisode aujourd'hui est consacré aux États-Unis et au mode de sélection de la fédé américaine en vue des Jeux de Paris, les Trials. Voilà, c'était magnifique, c'était début février. Les meilleurs marathoniens américains rassemblés à Orlando. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont les heureux élites? Notre avis d'ailleurs sur ce système de sélection. Pour en parler avec nous, on va accueillir la plus américaine des marathoniens d'élite français. Marie-Ange Brumelot sera en direct avec nous. Elle habite à quelques kilomètres de New York. On va pouvoir parler de ce sujet avec elle. Et puis la séance, là aussi, va être intéressante pour toi parce que ça te concerne dès demain. Yodu, tout mettre en place pour être prêt le jour J, le jour de l'objectif de l'année. Quels sont les bons conseils à rappeler pour laisser le moins d'imprévus possible et pour arriver dans un bon état d'esprit sur la ligne de départ? Alors enfilez vos baskets. Attachez vos lacets, tout de suite direction la Floride. Numbers up again, force way through though. Going well on the far side is Tia Jones. And Tia Jones might have taken it. It was very, very tight at the line. Boy, oh boy.
Another world lead here in the New Balance Gate Grand Prix in Boston. Noah Lyles, when you come out.
Really good start from Blake in three there. Noah Lyles got some work to do. He's coming back at Blake. Is he going to get there? Yes, he is. Lyles and Blake, Curley nowhere in it. Those two battling away, and I tell you what, the lightning quick start from Blake in lane three really lays it on. He's a wonderful entertainer, with Noah Lyles.
There, this is her comeback. She can't quite make it a golden return in front of the home crowd. Jessica Hull of Australia sneaks ahead, 8:24.93. That is seriously hot. It obliterates.
Oh, a stumble from Manasseh took her out of the race, but Svoboda with a vacant lane next to her all of a sudden, striding away to win this by a metre going away. It's another 7-0 performance.
J'ai l'impression d'être en cours d'anglais là.
Eh ouais, bah écoute, avec l'émotion qui va avec. Belle production sonore de notre ami Geoffrey Charpie. Marie-Ange Brumelot en direct avec nous, en direct de New York. Salut Marie-Ange.
Bonjour, bonjour, de l'autre côté de l'Atlantique.
Exactement, Marie-Ange, c'est un sourire pétillant que vous avez déjà découvert dans RMC Running. C'est l'une des seules personnes au monde qui se lève à 6h du matin pour parler avec nous. Donc, Marie-Ange, on te remercie d'être là parce que le sujet te concerne, tu le connais sur le bout des doigts. Question toute simple, comment vas-tu? Parce que, pour ne pas trahir de secret d'ailleurs, tu as commencé à l'afficher sur tes réseaux. On passe d'un objectif marathon à de l'objectif 100 km. C'est bien ça, c'est bien ce que j'ai vu, Marie-Ange?
C'est ça, je crois que la dernière fois qu'on a parlé ensemble, vous avez fait une petite blague, on va voir Marie-Ange sur 100 km et c'était dans mon esprit tout le temps.
Et ben voilà, donc ça y est.
Et voilà.
C'est ton objectif, tu vas te lancer sur 100K avec pourquoi pas l'objectif d'aller chercher le record de France.
Exactement, c'est ça. Donc bon. La première chose, c'est qu'il y a les championnats demain du monde de l'événement en fin d'année. Donc ouais. Ce serait évidemment pouvoir une place, se qualifier pour ça. Et puis les temps, je pense qu'ils vont suivre.
Bon, on est amis aussi avec la championne de France actuelle et championne du monde, hein, Florian Hodd. Donc, que la bataille soit belle, Yodu, c'est marrant quand même d'avoir Marie-Ange et Florian qui vont se battre pour ce titre-là. Allez, j'adore faire ça avec toi. Une petite carte postale, tu es où? Est-ce qu'il fait jour chez toi? Qu'est-ce que tu vois à travers ta fenêtre?
Le soleil commence à monter son petit bout de son nez, il est 7h, donc... Donc tout le monde se réveille tranquillement ici de ce côté. C'est une belle journée, bon. Donc que de bonnes choses.
Magnifique. Parlons de l'événement qui s'est déroulé le 3 février dernier. Nous, on a suivi ça avec Yodu, c'était passionnant. Les Trials, hein, j'espère que je le dis bien, Marie-Ange, les qualifications américaines sur marathon pour les Jeux de Paris. On a l'habitude de voir ça pour l'équipe nationale d'athlétisme, hein, c'est leur spécialité. Il y a toujours de gros noms qui se font sortir sur ces sélections. Là, on parle vraiment du marathon. C'était à Orlando, il y avait les courses féminines et masculine, il y a eu beaucoup de spectacles. Est-ce qu'il y a eu un gros engouement déjà, Marie-Ange, autour de cet événement ?
Toujours. Il y a, dans la communauté d'athlétisme, il n'y a rien comme les Olympic Trials. Que ce soit les personnes devant qui visent leur qualification pour les Jeux Olympiques, ou tout le monde derrière, la communauté en général, ça donne une atmosphère incroyable.
Ouais, parce que déjà, le lieu choisi, c'est communiqué quelques mois auparavant, ça fait un buzz monstre là-bas, et puis ensuite, il y a toute la préparation. La Fédé américaine fait bien les choses, Yodu, parce qu'on annonce ça et on programme cette course 6 mois avant l'échéance olympique. Ça laisse aux athlètes le temps de régénérer le corps et de se préparer pour le marathon de Paris. D'ailleurs, Yodu, c'est le premier truc que je voulais te dire. On aurait pu se dire que, en vue du marathon et du parcours accidenté qui nous attend à Paris, la Fédé américaine allait choisir un parcours difficile. Finalement, non, hein, Marie-Ange, je parle sous ton contrôle, mais le parcours était assez plat à Orlando. N'était pas très sexy, d'ailleurs, ce parcours du marathon de sélection.
Boucles, ouais. Ouais. C'est les boucles. Les boucles, c'est peut-être pas très sexy pour les coureurs, mais en termes de créer une super atmosphère et d'avoir les fans sur le parcours et de voir les athlètes 2, 3, 4, 5 fois, ouais. ça a beaucoup d'avantages.
Ouais. Alors, on vous l'a raconté souvent ici parce que Johan est concerné. Donc, vous savez, vous connaissez le système français. Il faut réaliser les minima olympiques. Ensuite, les deux meilleurs temps étaient sélectionnés au 31 janvier. Donc, on a eu les sélections, en tout cas les cas prioritaires de Nico Navarro et de Mehdi Frère. Il reste un ticket à prendre chez les hommes. Chez les femmes, là aussi, il y a 2 tickets qui ont été distribués. Yodu, qu'est-ce que tu penses du système américain ? Tout joué comme ça sur un jour, sur une course, les meilleurs marathoniens sont réunis. Il y a des temps minimaux à réaliser avant de pouvoir postuler à cette course, mais chacun a sa chance et ça se joue en one shot. Est-ce que c'est un système qui te plaît, toi, Johan ?
Compliqué parce que
c'est dur comme
avantages.
Question. Hein.
Ah ouais, c'est ça parce qu'il y a quand même des avantages et des inconvénients. Mais là, on parle du marathon, mais c'est quelque chose qui est légion sur la piste. C'est pareil pour les coureurs de 5000, les lanceurs, les sauteurs, tout ce que vous voulez. Donc, du coup, en fait, quand tu as un vivier énorme, tu peux te permettre ce genre de truc parce que, admettons que ton cador il passe au travers, derrière, tu as un mec quasiment similaire pour le remplacer. Et puis, c'est de la lutte homme à homme. Quelque part, c'est du fight. C'est là tu montres que tu es capable d'être prêt le jour J, que tu as réglé ton pic de forme et que sur de la lutte homme à homme, c'est toi qui es plus fort. Tu vois, ouais. C'est pas fait sur un chrono, sur un marathon au mois de février, un an et demi avant, tu vois, un truc un peu alambiqué comme on peut l'avoir en France. Et donc ça, pour ce côté-là, c'est intéressant. Mais par contre, imagine, tu fais ça en France sur le décathlon et meilleur, il mord au 100 longueur.
Eh oui.
Tu te retrouves au décathlon avec aux Jeux Olympiques sans Kevin Mayer. Et du coup, ta seule chance de médaille, en gros, tu l'as plus.
C'est vrai.
Donc c'est vrai que les États-Unis ont cette particularité d'être un pays énorme avec un vivier énorme et de pouvoir se permettre de faire ce genre de sélection. Mais après, d'un autre côté, je trouve que pour le marathon, quand tu sais que tu as une échéance au mois d'août, tu te dis, 6 mois avant, c'est parfait. Tu as le temps de récupérer, de régénérer, de te repréparer. Et que ce système-là sur marathon, comme vu le vivier qu'on a en France, on pourrait se le permettre.
Ouais. Et puis, c'est très lié à la mentalité américaine. Marie-Ange, c'est un test grandeur nature. Tu veux être le meilleur, tu veux aller chercher une médaille à Paris, on te met en condition à Orlando 6 mois auparavant. Tu montres ce que tu vaux, ce que tu es capable de faire. Et comme ça, tu vas chercher toi-même ta qualification. Je pense que la mentalité américaine, c'est ça, Marie-Ange.
C'est ça, et ça fait rêver tout le monde. Et ça a forcément des points positifs et des points négatifs. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs, surtout quand on regarde la raison pour laquelle ils se qualifient pour les Jeux Olympiques. Olympiques, c'est en plein été. Personne ne va au JO pour courir un temps rapide. Tout le monde va au JO pour un classement.
Ça, les gens
vont au JO
c'est
pour une médaille. Alors, pourquoi choisir un athlète par rapport au temps, alors qu'ils vont débarquer à Paris, ou peu importe où le Giro sera dans les années futures, alors qu'ils ne vont pas y chercher un temps.
Non mais c'est sûr, c'est une bonne réflexion ça, c'est Johan, ça. C'est que tu nous le dis tout le temps, une course de championnat, ce n'est pas une course après un chrono.
Ah
donc
bah une course sans lièvre,
la démarche, ça se comprend.
Pas du tout régulière, c'est pas du tout la même que quand tu te mets dans un paquet et du premier kilo au 42 kilos, tu restes dans le paquet et tu attends que ça se passe et tu serres les dents. Là, en championnat, ouais, c'est ça, c'est de la lutte homme à homme. On l'a vu avec la course intelligente d'Hassan Shadi à Budapest. Il est parti prudemment, il est remonté. Il faisait chaud, les mecs sont partis vite, ils ont sauté. Et il est passé de la 30e place à la 20e place et pour finir 7e des championnats du monde. Parce que voilà, il faisait chaud, les gens sont partis un peu vite, ça a explosé. Il y en a qui ont abandonné, enfin... Il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Et effectivement, ouais, ce n'est pas du tout les mêmes courses. C'est pas du... Et puis, alors d'autant plus sur le marathon de Paris, enfin le marathon des JO de Paris, avec 430 mètres de dénivelé sur un marathon. Ça, on ne l'a jamais vu. Et effectivement, moi, bah, c'est vrai que j'aurais fait une sélection sur un parcours un peu accidenté, tu vois.
Bah ouais, c'est ça qui est particulier. En plus, il c'est assez chaud. On va y revenir sur ce qui s'est passé à Orlando. Mais j'ai juste sous les yeux les minima qu'il fallait réaliser pour pouvoir prétendre à participer à ces trails, justement, pour les hommes, les fondeurs américains. Il n'y a rien d'inaccessible. Là, on parle de coureurs de très haut niveau. Hein. C'est pour ça que je me permets de dire ça. C'était 2h18 sur marathon, Yodu, et 1h03 sur semi. C'est-à-dire qu'avec le potentiel et la densité qu'on a en France, là, aux États-Unis, il y avait plus de 70 hommes qui ont pris le départ. En France, on aurait pu avoir le double, voire le triple, hein, parce que c'est un niveau qui est atteint par beaucoup, beaucoup de coureurs français désormais. Hein.
Plus près de 220.
Ah, plus 220. 200. Ah, et 200, ouais,
200. 220, 220 chez les hommes.
Ah, c'est ça. Donc, ils étaient beaucoup à s'être qualifiés, voilà.
Non, mais ouais, ça doit être à peu près similaire. Non, on doit être quand même un petit peu moins en termes de bilan sur 2h18 en France, quand même.
Tu penses à 1h03 sur semi aussi ? Ouais.
Ouais, ouais.
Bon.
Par contre, c'est vrai que ça permet à un athlète pas forcément olympique, tu vois, de 13, de 14, de 15, de se confronter au meilleur. Et puis des fois, sur un jour de folie.
Alors, ce qui est génial ensuite, c'est forcément, Marie-Ange, la stratégie de course. Parce que là on s'est régalé. Et c'est sympa, notamment chez les hommes, parce qu'on avait deux des favoris qui sont des partenaires d'entraînement au quotidien. Connor Mantz, qui s'est imposé d'ailleurs en 2h09 et 5 secondes. Devant Clayton Young, qui lui fait deuxième en 2h09 et 6 secondes. Et moralité de l'histoire, bah, ils ont couru ensemble, en fait. Ils sont restés ensemble jusqu'aux 100 derniers mètres. Et c'est là où Connor Mantz a placé une petite accélération et qu'il a terminé devant son pote. Mais il y a des vraies stratégies d'équipe, ou non d'ailleurs, parce que c'est un autre coureur de grand talent qui a mené le train, qui s'appelle Zach Panning, avant de céder à partir du 30e kilomètre. Mais c'est une vraie course stratégique qui s'est déroulée chez les hommes et chez les femmes. Les femmes, on en parlera juste après, mais en tout cas, chez les hommes, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein.
Ouais, c'était exactement ça. Ils s'entraînent ensemble, ils courent ensemble. Je crois qu'ils avaient fait à peu près la même chose. Ils ont fait Chicago l'année dernière et ils avaient un peu couru ensemble aussi. Ils ont fait des chronos qui ont aussi fini très proches l'un de l'autre.
Ouais.
Et c'est vrai qu'en général, les Olympic Trials, il faut arriver dans le top 3. Il faut arriver dans le 3. Qu'on soit premier, deuxième ou troisième, c'est très rare que les athlètes où on fait vraiment une différenciation. Donc bon, tu fais, allez, on y va ensemble, on termine ensemble. À partir du moment où on sécurise le billet pour Paris, tout va bien.
Et puis, je vous invite à voir cette image de l'arrivée, mais c'est totalement ce que tu décris, parce qu'on voit justement Clayton Young qui comprend vite qu'il fait partie des deux et qui, lui, s'en fiche un peu d'aller terminer premier, alors qu'il y avait un prize money, on en parlait d'ailleurs, mais c'était assez élevé. Le premier prenait 80 000 $ chez les hommes et chez les femmes, le deuxième 60 000. Mais en gros, Clayton Young, ce qui l'intéressait, Marie-Ange, c'était d'être qualifié. Donc lui, à partir du moment où il a tourné la tête, il avait qu'il n'y avait plus personne derrière, et il a été soulagé, il s'est dit, c'est bon, je peux relâcher l'effort. Quoi.
Exactement.
Donc c'est ce qui s'est passé. Les chronos sont pas dingues, hein, Yodu, hein. C'est ce qui prouve que c'est une course de championnat. Hein. 2h09.5. Aujourd'hui, sur un peloton mondial, sur une course, un grand marathon, un major par exemple, tu n'existes pas avec ce chrono-là.
Mais ils sont pas dingues, et surtout autant chez les femmes, la densité elle est quand même assez folle sur le marathon américain, autant chez les hommes, il y a quand même un vrai trou, parce que quand tu regardes les records perso ou le classement au ranking, tu t'aperçois que le meilleur cette année aux États-Unis, c'est Connor Mantz avec 2:07.47. De 7:47, il y a 5 Français devant lui. Hein.
Ça, c'est PB, hein, donc c'est personal best.
C'est son
c'était
record
à Chicago
perso,
en 2023.
C'est fait à Chicago, c'est ça.
Exactement.
Et c'est le meilleur chrono des Américains à l'heure actuelle.
Et, ouais.
Et il serait 6e, s'il était français, il serait 6e. Il y a 5 Français devant lui. Donc après, hein, le niveau français, il est ouf. Ça, c'est une certitude. On est dans les 5 meilleures nations mondiales sur marathon aujourd'hui. Si tu prends les top 5 des athlètes, on est dans les 5 meilleures nations mondiales. Et mais voilà, ouais. Et par contre, ils ont du monde en 2-7, 2-8 sur ces chronos-là. Donc après, c'est des chronos tout à fait corrects. Hein.
C'est vrai, Marie-Ange, que ça nous paraît fou qu'un pays aussi grand et dans lequel l'athlétisme est aussi important que les États-Unis n'est pas de marathonien un peu meilleur que ça, entre guillemets. On respecte les performances, hein, on trouve ça énorme, mais nous, on voit ça du point de vue français, où on s'est aperçu à Valence qu'il y en avait combien ? Il y a dû 4 qui étaient sous les 2h06.40, en gros.
Ouais.
On y était, parce qu'il y avait Mehdi, il y avait Nicolas, il y avait Félix et Benjamin Schocker.
Et Mourad, 2-6-55,
et Mourad aussi, ouais. Mourad, tu as raison, qui est recordman de France. On est surpris par le manque de densité de très très haut niveau chez les hommes, Marie-Ange, en fait.
C'est vrai, à l'époque, c'était, si on regarde, au dernier cycle olympique ou même celui d'avant ça, c'était les hommes qui avaient beaucoup plus de densité devant que les femmes. Et c'est vrai que les choses là, ont un peu changé. Mais la chose qui reste toujours la même chose, c'est ceux qui sont juste là, ceux qui tapent à la porte à ce minima olympique, et du côté des femmes et du côté des hommes, il y a une densité à ce niveau-là. On a beaucoup, beaucoup moins d'athlètes, comme vous disiez, que les Français, juste là, au niveau du 2-6 en soi. Les US, là, ils n'en ont pas. Mais quand on regarde le nombre d'athlètes qui ont couru en dessous de 2-10, ou dans ces alentours-là, là, tout d'un coup, les choses changent énormément. Et je pense que c'est vraiment cette idée de Olympic Trials. Voilà, comme tu as dit, le standard pour les hommes était de 2,18. Et rien que se qualifier pour cette course, c'est une aventure pour chaque athlète. Et c'est ça qui crée, je pense, cette densité de juste derrière. Et c'est ça qui crée un rêve pour beaucoup. Ce jour-là, tout est possible, on va y aller.
Alors, nous, on a du mal à se rendre compte d'ici. Nos marathoniens, à nous, ont une notoriété, mais elle n'est peut-être pas aussi importante qu'elle devrait, vu le niveau de performance. Est-ce que les marathoniens, les top marathoniens américains, sont des stars aux USA ou pas vraiment non plus ?
Moi, étant dans la communauté de coureurs, j'ai envie de dire oui.
Ouais, c'est ça, c'est que nous, on a un regard biaisé, t'as raison, c'est sûr. Mais est-ce que Connor Muntz est reconnu comme un athlète de très haut niveau par le grand public américain ? Même si on peut parler des fans de sport avant tout, mais est-ce que c'est quelqu'un de connu dans le monde du sport américain ?
J'ai envie de dire oui, mais encore, je suis tellement dedans que,
ouais,
que c'est dur de savoir que si mon opinion vraiment soit le même de tout le monde, c'est dur de dire. Là.
En revanche, on a
Et
on a des vraies stars chez les femmes. Et là, allons-y sur la course féminine, parce qu'on a vécu une course complètement folle. Un résultat déjà. Alors juste pour terminer sur les résultats masculins, parce qu'il y a une belle histoire que je voulais vous conter. On a Léonard Corrère qui termine 3e en 2h09.57. Je vous raconte cette histoire parce qu'il y a 4 ans pour les Jeux de Tokyo, il avait loupé la qualif Yodu pour 3 secondes. Pour 3 secondes, il s'était fait devancer. Et là, il a doublé 2 coureurs dans le dernier kilomètre. Donc t'imagines un peu le choc psychologique et émotionnel qu'il a vécu dans le dernier kilomètre comme ça à Orlando.
Il a juste 5 secondes d'avance sur le quatrième. Donc effectivement, là, c'est la pièce qui était tombée du mauvais côté.
Exactement.
Et là, elle tombe du bon côté. Et je pense que là, d'un point de vue mental, s'il va chercher le gars et s'il termine devant, c'est peut-être aussi parce qu'il y a 4 ans, il y a eu ce truc-là qui fait que bah là, le cerveau, il se dit pas 2 fois d'affilée, tu vois, c'est pas possible.
Ouais.
Et là, tu vas chercher tout ce que tu peux au fond de toi et là, tu mets tout. Hein.
C'est une des belles images, hein, Marie-Ange, d'ailleurs. Le voir, lui, aller chercher cette qualif après ce qu'il a vécu auparavant, c'était beau, quoi.
C'est beau. C'est une belle histoire pour ceux qui terminent dans le top 3. Le quatrième, en général, a une... Des souvenirs différents de cette journée. Il était quatrième la dernière fois et ça reste dans ton esprit pendant 4 ans. Donc il a dit dans une interview après et fait oui non je pouvais pas terminer quatrième encore une fois. Il fallait que j'allais attraper le troisième et terminer sur le podium.
Et puis chez les dames, je le disais, on a vécu une course folle parce que celle qui s'est imposée disputait son premier marathon, Fiona O'Keefe, 25 ans. Là le chrono est impressionnant, 2h22 et 10 secondes, elle devance la record woman des États-Unis, Emily Sisson, qui fait 2h22.42. Troisième, on a Dakota Linworm, qui fait 2h25 et 31 secondes. Et puis, il y a quelques légendes de ce sport qui n'ont pas pu se qualifier, mais qui ont fait une course fantastique. Marie-Ange, je pense à Sarah Hall, 40 ans. Elle fait cinquième. Elle avait fait cinquième des mondiaux à Eugene. Elle, pour le coup, c'est une vraie star de l'équipe américaine. Et puis, il y a également Keira D'Amato, qui n'a pas pu aller chercher sa qualif. Mais là, pour le coup, Marie-Ange, on parle vraiment de légende du sport américain pour ces deux femmes. Hein.
Ouais, du côté des femmes, il y a tellement de noms, on pourrait regarder la liste et parler de chacune d'entre elles pendant un bon moment. Elles ont un résumé qui sont incroyables et ça a été une belle course à regarder.
Ce qui est beau avec Keira D'Amato, c'est que quand même, elle a eu le temps d'avoir deux enfants en carrière hein, et de revenir au plus haut niveau et d'aller postuler pour ces trials comme ça à Orlando. Parle-nous de la vainqueur, du coup, Marie-Ange, une comète de l'athlétisme américain. Je le disais, 25 ans, premier marathon, elle a pris les choses en main, elle s'est échappée comme ça. Elle entendait le public lui crier « Tu vas à Paris, tu vas à Paris !» Et même elle était surprise de sa performance à l'arrivée. Tu te rends compte, premier marathon sur des trials comme ça, et elle parvient à arracher le premier ticket.
Ouais, ses coachs avaient dit « Oh, Fiona, ça va être une naturelle au marathon dès qu'elle y va, dès qu'elle va l'essayer. » Et c'est vraiment ça qu'elle a montré. Elle a « effortless ». Ouais. On a l'impression qu'elle a fait ça avec une ease incroyable et elle a vraiment mérité sa place et je suis très excitée de l'avoir à Paris.
Elle, pour le coup, on peut viser podium, pourquoi pas à Paris. En tout cas, top 5, ça peut être un objectif olympique.
Ouais, écoute, il n'y a plus qu'à voir. C'est ça. Non, une fois qu'on a sa place dans les championnats, il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a pas de limite, honnêtement. Après, ouais.
Elle est jeune,
course comme ça.
Ouais. À Iodus, sortir une course pareille sur un premier marathon, c'est hallucinant.
Ouais, alors après, elle avait des références. Hein. Elle a déjà couru une 7 au semi oui. et 30-50 au 10 000. Donc, effectivement, c'est quand même... Mais après, voilà, il faut le faire sur marathon. Premier marathon à 25 ans, c'est pas évident sur un trial en plus. Elle peut faire quelque chose, une belle carrière sur le long, ça c'est sûr. Hein.
Ouais. Et puis Sarah Hall, on le disait, l'autre légende qui termine cinquième. Sarah Hall, elle a 40 ans. Elle avait fait quelques belles places. Elle a fait cinquième à Berlin en 2019, deuxième du marathon de Londres en 2020. Et puis je le disais, cinquième à Eugene, 2h22.10, elle avait fait ce chrono. Voilà, c'est une vraie famille d'athlètes, une vraie coureuse de demi-fond. Là, il y a des déceptions, Marie-Ange, mais bon, on a quand même reconnu la performance. Ça reste malgré tout des femmes ultra populaires et qui étaient forcément déçues, mais qui ont déjà eu une vie dans l'athlète, quoi. C'est différent. Bon, ça reste une méga star et que, elle savait qu'elle était plus proche de la fin que du début, au très haut niveau.
Ça, c'est sûr. Elle a quand même eu une course exceptionnelle. Je pense qu'elle avait sa chance tout le long et bon, ça n'a pas tourner dans son sens à la fin, mais qui sait, peut-être qu'elle n'a pas fini, peut-être sa carrière n'est pas finie, c'est à elle de savoir, mais elle court encore très bien, donc bon, si elle veut continuer, elle est toujours très compétitive.
Moi, ça me donne de l'espoir pour Yoann Durand, tu vois. Les années passent, mais il est toujours aussi performant, donc ça peut...
Non, mais après, sur le long, on rigole, mais c'est vrai que le long ouais. a cette... Si tu arrives à emmagasiner les kilomètres avec l'expérience que tu as et les différents marathons qu'elle a déjà courus, tu peux courir assez longtemps. Hein. Eliud Kipchoge a 37 ans, 38 ans, donc effectivement, on peut aller loin.
Yodu, le prize money à 80 000 dollars pour le vainqueur, ça te fait rêver?
Ah, je crois que j'ai jamais participé à une course où il y a autant. Non, quand tu vois que le marathon de Paris, la dotation, elle est de 40 000 euros pour le vainqueur. Enfin, déjà, tu sais que les 5 premières places au marathon de Paris, elles sont réservées aux coureurs africains. Enfin, elles sont pas réservées, mais tu sais très bien que c'est des coureurs qui valent 2-4, 2-5 qui oui. viennent sur Paris, qui sont des jeunes Kenyans qui ont les dents longues en plus parce qu'ils veulent aller après sur des gros marathons, sur des majors. Donc, ils viennent à Paris sur un premier marathon histoire de se montrer. Et effectivement, ils font des perfs plutôt. C'est souvent, hein, ça se gagne 2-5, 2-6 à Paris alors que le parcours est pas du tout favorable. Le prize money fait rêver, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la mentalité américaine, ouais. C'est la méthode américaine, c'est exactement. Les trials, c'est il y a les sponsors, il y a beaucoup de choses qui font que il y a beaucoup plus d'argent qui gravite dans le milieu du marathon et du running américain qu'en France. Ouais.
T'as raison d'en parler, mais le sponsoring est exacerbé là-bas aussi. Ce sont des athlètes qui gagnent déjà très bien leur vie, Marie-Ange, là, les marathoniens dont on parle, qui sont en passe de se qualifier, d'aller disputer les Jeux Olympiques. Là, on est vraiment sur de l'athlète de haut niveau qui vit très bien de sa passion. Quoi.
C'est ça, pour ceux qui sont vraiment, qui ont déjà eu un temps, qui sont devant. Donc c'est vrai que quand on parle des noms dans lesquels on a déjà parlé, eux, ils vivent très bien leur vie. C'est vrai que dès qu'on passe quelques places derrière, je pense que les choses changent un petit peu très rapidement. Parce qu'après, ça devient plus, et je fais ça pour la passion plus qu'autre chose.
Ouais.
Mais c'est vrai quand je pense que le modèle américain offre cette chance qu'on n'a pas forcément ailleurs de pouvoir vraiment en vivre. Il y a beaucoup de courses qui ont le prize money, que ce soit les trials, mais toutes les courses, c'est une chose très commune d'avoir, de courir une course, de gagner. Et que les gens ramènent un chèque chez eux, que ce soit petit ou grand en fonction de la course. Mais ça fait vraiment partie de l'idée ici.
Ouais, c'est ça. C'est donner l'opportunité et la chance aux athlètes d'être dans les meilleures conditions pour aller chercher une performance. Justement, si on se projette sur Paris, c'est peut-être une question délicate pour toi, mais est-ce que tu sais si y a un encadrement fédéral qui est fort ? Est-ce que tu sais s'il y a des stages nationaux qui sont organisés ? Est-ce que tu sais si les sélectionnés pour Paris vont être couvés justement par la Fédé pour être le plus performant possible et arriver les 10 et 11 août en pleine forme à Paris?
Oui, je pense que les US y mettent toutes leurs ressources. Ils ont toutes les capacités en soi, hein, donc ils en profitent. Et c'est une bonne chose à faire. Ils encadrent les athlètes comme il faut et ils leur donnent toutes les ressources. Et je suis sûre que les 6 Américains qui vont arriver sur la ligne d'arrivée à Paris en 2024 vont être dans la meilleure de leur forme et prêt de la meilleure manière possible.
Parce que ça, c'est un avantage indéniable aussi, Johan. C'est que nous, la preuve, on connaît quelques qualifiés désormais pour les Jeux. Hein. Normalement, Mehdi et Nico iront. Pas certain pourtant qu'il y ait un appui fou de la fédération. Là, pour l'instant, Mehdi est au Kenya, mais c'est un peu par ses propres moyens. Nico Navarro travaille chez lui dans l'ombre actuellement. On ne sent pas de stratégie fédérale pour les emmener au mieux jusqu'à Paris pour le moment.
La difficulté de la France, c'est justement notre capacité à faire des médailles. Et du coup, l'Agence nationale du sport a donné priorité aux forts potentiels olympiques, ouais, à savoir les gens qui peuvent ramener des médailles. Ils se sont dit, si tu n'es pas top 8 au championnat du monde... grosso modo, c'est très bien d'aller faire le marathon des Jeux Olympiques, mais si c'est pour faire 30e, tu nous intéresses pas trop. Et donc, elle a donné vraiment les moyens pas qu'en athlée, hein, dans tous les sports, à des sports où, justement, on était en capacité d'aller chercher des médailles. Et effectivement, nous, sur marathon, c'est faire injure à personne de dire que c'est compliqué d'aller faire une médaille. Même un top 8, comme elle a fait Hassan à Budapest, c'est la première fois de l'histoire qu'un Français fait top 8. Et il a fallu des circonstances que j'ai dit tout à l'heure, où on est à une année post-olympique, avec de la chaleur, avec une course bien maîtrisée de la part d'Hassan et tout. Mais c'est déjà une grosse performance en soi.
Ouais.
Et du coup, effectivement, la volonté de la France, mais pas, c'est pas forcément que de la Fédération française d'athlétisme. Hein.
Non, bien sûr.
C'est une volonté nationale. C'est le ministère qui a dit, nous, ce qu'on va faire pour les Jeux Olympiques, pour faire maximum de médailles, on aide en priorité les athlètes et les sports où potentiellement on peut faire des médailles. Le reste, si c'est pour faire 18e, tu te débrouilles, mais c'est presque ça. Et donc malheureusement, sur marathon, effectivement, c'est compliqué de faire une médaille. Donc du coup, t'es un peu,
tu
prends les restes de ce que prennent pas les forts potentiels olympiques.
C'est toujours un cercle vicieux parce que tu te dis, tant qu'on donne pas des moyens et qu'on permet pas aux athlètes de s'épanouir dans la pratique de leur sport, ils peuvent pas aller tirer la quintessence de leur potentiel. Tu vois, c'est ça le problème.
C'est toujours la
même chose. C'est que tu te dis, un mec comme Navarro qui aujourd'hui vaut 2,5 et puis même Mehdi, si tu lui déchargeais un peu cette charge qu'il a à côté de gagner sa vie, hein, d'aller chercher des sponsors, de faire des OP et tout, tu le mettrais dans les meilleures conditions pour perfer pour Paris 2024, tu vois. Alors que là,
exactement,
c'est pas vraiment ce qui est fait. En fait, tu sais pas ce qui pourrait valoir en étant avec un potentiel optimisé, avec des moyens illimités, une fédé qui te pousserait, tu vois. C'est toujours l'éternel problème. C'est à un moment, il faut investir pour obtenir des résultats, quoi, tu vois.
Exactement, ouais.
Ouais,
exactement, c'est investi sur des athlètes à potentiel. Et puis aider, accompagner les athlètes, ça devrait être la base de chaque fédération. Après, le système américain fait que y a beaucoup plus d'argent que chez nous. Et c'est ça, c'est pas simple. Ouais.
Et juste avant de passer à la séance, Marie-Ange, en un mot, est-ce que tu peux nous raconter de ce que représente la folie des trials pour la piste, pour the track, comme ils disent, parce que là, c'est vraiment une guerre psychologique. Il faut être très fort mentalement pour s'en sortir. Beaucoup de stars ont déjà sauté justement aux qualifs américaines d'athlétisme parce qu'il y a des légendes. Là, on parle d'un sport très fort aux États-Unis. Il y a toujours de la casse, mais c'est un moment exceptionnel à vivre en tant que spectateur ou téléspectateur.
Complètement. Autant en marathon, il y a plus de 200 athlètes qui arrivent au départ. Donc forcément, tout le monde n'est pas là pour gagner. Autant sur la piste d'athlétisme, vu qu'il y a beaucoup moins de place, c'est beaucoup moins la tête. Donc c'est vraiment le meilleur des meilleurs. Et donc ça te donne une atmosphère, que ce soit les athlètes qui sont stressés ou les fans qui sont super excités. Tout est réuni dans ce stade et c'est une ambiance à vivre au moins une fois.
Ça veut dire qu'un Noah Lyles, qui est un peu une star aux États-Unis, s'il rate les trials, il peut sauter comme ça et ne pas aller au jeu.
Oui. Tout est joué, tout est joué ce jour-là.
Non, mais c'est pour qu'on se rende compte. C'est-à-dire que le gars a été extraordinaire à Budapest, il a tout raflé. S'il est nul à ce moment-là, bah, il n'ira pas. C'est ça le modèle américain qui est fou, Yodu.
C'est ça, mais en soi, tu te qualifies pour les Jeux Olympiques, t'es nul le jour J, tu perds ta médaille
aussi.
C'est
vrai, non, mais bien sûr, c'est une façon de travailler grandeur nature. C'est un test grandeur nature, mais Johan, en réfléchissant comme ça, c'est fou.
Non, mais je te dis, potentiellement, tu peux te séparer de tes cadors, de tes têtes d'affiche. Si malencontreusement, tu en as 3-4 qui passent au travers. Et bah, du coup, après, il faut compter sur ton vivier et sur les athlètes qui les ont battus et te dire que c'est peut-être eux les futurs champions. Mais d'un autre côté, tu vois, ça évite les petits arrangements entre amis. Des fois, il y a eu ça à la fédération l'athlète, il venait pas au championnat. À un moment donné, on devait participer au championnat de France élite, mais il avait une petite blessure à l'adducteur, donc il venait pas. Donc du coup, il était déjà sélectionné. Mais il était en stage à Font-Romeu, il s'entraînait. Bref, tu avais toujours des petits arrangements comme ça qui faisaient que il évitait la confrontation, tu vois. Ouais. Du coup, là, au moins, c'est réglé. C'est tu viens, tu cours, et si tu perds, tu es sélectionné. Mais et si tu l'es pas.
La seule limite, c'est si un mec comme Noah Lyles se subit une mini contracture musculaire 5 jours avant, c'est foutu pour lui. Alors qu'en fait, tu sais qu'il aurait pu t'apporter un nombre de médailles incroyables et briller encore. C'est peut-être la seule limite de l'exercice, quoi. Mais après,
c'est une limite importante quand même.
C'est sûr. La Fédé, on doit faire la grimace à ce moment-là, mais bon, on croise les doigts.
Tu croises les doigts, Mais c'est pas simple, hein. Après, c'est ce système qui est en place depuis
1920, je crois, Marie-Ange. Je parle sous ton contrôle, mais on avait mis ça à l'époque en place justement pour sélectionner les athlètes américains. Hein. C'est assez vieux comme système, non?
T'as l'air de connaître plus que moi.
Je crois que c'est ça, j'avais regardé.
En France, quand tu vas sur le site de la fédération pour regarder les trucs de sélection, les méthodes de sélection, t'as l'impression de lire le code pénal de l'article machin. C'est incompréhensible.
Exactement.
Franchement, si tu te le fais pas, en plus maintenant il y a le ranking. Mais si tu te le fais pas expliquer, même toi qui es dans le truc.
Mais je vous livre une coulisse. Une coulisse. Avant le 31 janvier, il y avait dans le milieu de l'athlé, on parlait beaucoup du marathon, même avec les athlètes, même avec toi, Yodu. On avait 18 versions différentes pour se qualifier en tant que marathonien. Ah ben non, mais lui, il est prioritaire parce qu'il a signé ça. Mais non, c'est ça qui prévaut, c'est le chrono. Ah ben non, mais lui, il a fait telle place.
C'est un enfer.
Non, mais c'est fou. Au moins, les Américains, ils se posent pas de questions. Pam, et puis ça tombe comme ça. Faut être présent le jour J. Et puis, et si tu es bon, tu passes. Sinon, tu restes à la maison. Bon, c'était passionnant de parler de ce sujet. On attaque tout de suite la séance.
RMC,
la séance.
Et on reste un peu dans ce thème. Fermez les yeux, ça y est, vous y êtes, c'est le grand jour. Après des mois de préparation, vous allez enfin disputer la course de votre année, de votre vie même, pourquoi pas, un événement que vous avez préparé depuis le long mois, vous avez fait souffrir toute votre famille. vous allez vous présenter sur la ligne de départ, voilà, on n'en peut plus de vous. Et bien, on va vous aider à vous y préparer, tout mettre en place pour être prêt le jour de la course. Déjà, il y a du premier conseil qu'on donne systématiquement. C'est essentiel, c'est crucial d'installer une forme de routine et de limiter l'imprévu au maximum pour faire fuir tous les facteurs de stress. Ça, c'est le conseil primordial qu'on peut donner.
Ouais, bah ça, c'est le meilleur conseil. Ouais. C'est de ne pas arriver le jour J sans s'être créé une espèce de to-do list pour ne rien oublier, d'avoir vraiment pensé à tout en amont. Tu vois, tu fais pas les trucs complètement à l'arrache parce que c'est le meilleur moyen pour oublier ton maillot de club, tes épingles, ta pièce d'identité.
Tu penses à Duncan là quand tu dis maillot de club et tout, parce qu'il avait été disqualifié du championnat de France.
C'est vrai.
Parce qu'il n'avait pas le bon maillot, quoi. Ouais, quel artiste.
C'est vrai. Il connaissait pas la réglementation et vu que je crois qu'il était en contrat avec une marque,
ouais, c'est ça.
Il avait préféré le maillot du club. Il avait oublié le maillot du club. Ouais. Ouais. Mais effectivement, ouais, cette to-do list, elle est importante pour ne rien oublier, que ce soit ses affaires. Moi, j'ai déjà vu un mec arriver avec avec sur la ligne de départ de la course avec c'était un athlète qui était sponsorisé, donc il y avait beaucoup de paires de chaussures avec deux pieds gauches. Il avait pas fait gaffe, il avait pris la même paire, mais il avait vu qu'il en avait plusieurs, il avait deux fois le pied gauche.
Ça, ah ouais, dans le virage, ça a dû piquer un peu, quoi. Le pied droit a dû souffrir, ouais, c'est sûr.
Coup de pression quand c'est arrivé 45 minutes avant la course, c'était vraiment juste à l'échauffement. Donc il a récupéré une paire de chaussures d'un pote, mais tu vois le genre de truc, mais c'était le mec tête en l'air. Et donc effectivement, cette to-do list, elle est importante pour vraiment rien oublier et puis pour, d'un point de vue mental, te mettre en condition et à ce que tu penses qu'à ta course. Il faut que tu penses qu'à ta performance, qu'à ce que tu vas donner. Et donc, je l'ai souvent dit ici, mais il y a aussi le fait de tester en amont tous les produits, hein, tu vois, que ce soit les chaussures, les chaussettes, le short, le t-shirt, les boissons.
Oui, même la tenue, tu as raison, même les chaussettes, même le short, même tout, pour éviter les frottements gênants.
Hyper important.
Vous qui êtes des marathoniens de haut niveau, d'ailleurs, ça veut dire que vos affaires pour le jour de course, lorsqu'on est dans la dernière semaine, vous les préparez quand ? Vous commencez le lundi, le mardi pour le dimanche. Marianne, c'est quoi, toi, ton expérience perso par rapport à ça ?
On prend une semaine qu'il faut connaître la météo pour savoir ce qu'on va mettre le jour J. Donc, c'est toujours la dernière chose qu'on attend. Et puis, une fois qu'on a la météo, en général, je pense qu'on a tous nos habitudes. Ah, s'il fait ce genre de temps, je mets ça. Si je fais ce genre de temps, je mets ça, etc.
Comment tu fonctionnes, toi ? Comment tu t'organises ? Tu fais comme tout le monde sur le lit de la chambre d'hôtel, tu mets toutes les affaires, tu épingles le dossard, tu as bien tes gels à droite, ta montre à gauche. C'est comme ça que ça marche ?
C'est ça, la petite photo d'en haut. Et hop, on est prêt pour le
C'est ça. Et Yodu, t'as des routines, toi, comme ça, de préparation, de logistique pour être sûr de rien oublier,
Ouais, moi, tu vois, j'épingle mon dossard la veille de la course, toujours, sauf quand t'es obligé d'aller le chercher le matin de la course, mais c'est quand même plutôt rare.
Ouais. Sur les grandes courses et grandes échéances.
Ouais, sur les grandes courses, tu le récupères avant. Ouais, tu le récupères toujours avant. Donc, je les épingle, je le mets bien et je le mets. J'ai vraiment un sac où j'ai chaussettes, shorts. Maillot et chaussures, tu vois, vraiment les 5 trucs qui ça reste ensemble et ça bouge pas pour vraiment rien oublier. Et après, c'est plus une routine mentale aussi, tu vois. J'ai mes habitudes de me coucher veille de course, toujours d'éteindre à 22h, et même si je dors pas, je reste dans mon lit, de regarder quelques vidéos de motivation avant la course. J'ai toujours un peu la même musique, les mêmes habitudes. Je bois telle boisson, tel truc avant la course. Tu vois, ça pour le coup, je me suis mis une vraie routine en place. Que j'essaye de respecter au maximum. Ouais.
Là, si on se projette avec toi sur Séville, alors nous, on enregistre la semaine d'avant, mais on sera le samedi. Qu'est-ce que tu auras mis en place ? Toute la tenue sera prête ? Comment ça va se passer alors ?
Ouais, c'est ça. T'as un dernier footing samedi matin.
Chaussures de compète pour le footing ? Non.
Non. Même les lignes droites, elles sont faites avec mes chaussures de footing. Ouais, je les mets pas. Ouais. Je les mets pas la veille. Mm-hmm. Mais par contre, voilà, tout est prêt. Comme je te dis, le dossard est épinglé. Les bidons sont donnés à l'organisation, calibrés pour être aux 5, 10, 15, 20, avec des doses de sucre différentes suivant les ravitaillements. Tu vois, beaucoup plus sucré au début et beaucoup plus salé. Sur la fin de course.
Okay.
Donc ça, tout ça c'est prêt, et puis après c'est le dernier footing le samedi matin, une sieste l'après-midi, les pâtes le riz poulet à 19h30, coucher à 22h, et puis réveil à 5h30, gâteau sport à 6h, arriver sur la course toujours 2 heures avant le départ de la course, donc 1 heure avant mon échauffement. Après, je reste dans la tente des athlètes, je glande un peu, je discute, j'écoute de la musique. Et puis voilà, échauffement habituel, toujours 55 minutes avant la course, avec 30 minutes de course, 5 minutes de glandage, un peu d'étirement, et puis après des gammes, des lignes droites. Et puis après, on va sur la zone de départ, ouais.
Marie-Ange, tu te reconnais dans cette routine aussi d'avant-course ?
Ouais, là, maintenant, quand j'écoute ça, je me dis, on fait tous la même chose.
Ouais, c'est ça.
C'est du copier-coller quasiment.
Ouais. Passage aux toilettes 20 minutes avant le départ.
Ça, oui, c'est sûr.
Il y en aura peut-être 3 des passages aux toilettes, toujours le matin de la course, mais sinon, c'est que ce soit la veille ou le matin, c'est vrai que ma routine est très très similaire.
Il y a des conseils qu'on peut donner aux coureurs amateurs qui nous écoutent, des conseils qui paraissent rien mais qui peuvent tout changer. C'est déjà lorsque vous voyagez en avion, que vous allez sur une destination que vous ne connaissez pas forcément, avoir dans le sac à dos à portée de main la tenue de la course et les chaussures de la course, parce que ça, c'est un piège. Imaginez, la valise reste coincée. Vous aurez l'air malin si jamais vous n'avez pas vos pompes ou
toujours les chaussures avec soi. Ouais.
Toujours les chaussures avec soi. Également, repérer la veille tout ce qui est zone de départ et d'arrivée. Ça, ça élimine justement un facteur de stress.
Les rues qui sont fermées, parce que souvent, des fois, on va arriver par cette rue sur le côté. Tu peux être sûr que généralement, les rues sur le côté, elles sont fermées.
Et baliser la logistique, justement. Comment je me rends à la zone de départ ? Est-ce que je prends le métro, le bus, la navette ? Est-ce que j'y vais à pied ? Est-ce que j'y vais à vélo ? À quelle heure les rues sont fermées ? Ce sont tous des petits détails, mais qui peuvent vous provoquer un stress supplémentaire qui est pas nécessaire le matin de la course. Donc, il faut être vigilant à tout ce genre de choses.
Hein. J'ai un pote qui me racontait au marathon de Valence, il sort du métro et normalement, je sais pas, la sortie du métro, elle devait être à 800 mètres du départ. Donc, il sort du métro, il prend à droite, il part pendant 800 mètres en mode footing. Et en fait, il est parti dans le mauvais sens. Donc, du coup, il est arrivé à la bourre dans son sas. Il était échauffé comme jamais. Il avait fait 40 minutes de footing.
Ah ouais.
Donc, ça, c'est des choses à faire attention. Ouais. Avec le stress du matin, tu fais pas gaffe.
Ouais.
Ça peut être moyen. Ouais.
Et puis après, des conseils plutôt juste avant le départ de la course. Peut-être un petit travail, là aussi, qu'il faut bosser en amont, mais de respiration, de concentration. Je sais pas comment tu fonctionnes, toi, Yodu, mais... vraiment, lorsqu'on sent qu'on est dans les 5 dernières minutes avant le départ, est-ce que fermes les yeux ? Est-ce que tu concentres sur la respiration ? Est-ce que tu fais baisser le rythme cardiaque ? Comment tu fais ?
Ouais, les dernières minutes, c'est quand même... elles sont faites pour se relâcher. Là, c'est je parle pour le long. Hein. Autant sur le 10 ou semi, j'essaye quand même de rester assez dynamique. Mais même mes 3 dernières minutes... Tu peux plus bouger. Même nous, sur Athlète Elite, on est derrière la ligne de départ et on attend. Et c'est vrai que là, ça peut paraître très long. Donc du coup, il faut essayer de faire descendre le cardio au maximum et de se relâcher et faire des exercices mentaux, des choses que tu t'es projeté, sur lesquelles tu t'es dit je vais penser à ça pendant ma course, tu vois, tu te dis je pars sur telle allure, je reste tranquille jusqu'au 10 puis j'accélère au 20, tu vois, tu te donnes vraiment ton plan de marche avec le pourquoi t'es là,
pourquoi tu cours et...
Voilà, pourquoi tu cours, exactement. Pourquoi parce que là, à ce moment-là, sur la ligne de départ, tu te le demandes. Hein.
Ouais.
Franchement, dans ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ?
C'est quand même aussi un moment, et je pense que ça vous est arrivé, c'est le moment de se remémorer toutes les séances dans lesquelles vous en avez bavé.
Ben voilà,
là, tu te dis, quand je me suis envoyé le 3x5K, que j'étais au bout de ma vie, sous la pluie et le vent, là, c'est le moment d'y penser fort hein, et de se dire, j'ai pas fait ça pour rien.
Cette petite peur qui fait qu'elle peut t'annihiler un petit peu. Ouais. Et généralement, ce stress-là, le mauvais stress, il va te faire dire « Pourquoi t'es là ?» blablabla, tu vas pas y arriver, t'es pas assez entraîné. Donc là, c'est le moment de repenser à toutes ces séances et à cette capacité à se motiver, à s'auto-motiver pour l'effort. Ouais.
Et on est d'accord, on n'a rien contre elle ou contre les gens qui font ça, mais... on n'écoute pas forcément les conseils de Véronique, qui est la coach sportive et qui vient nous dire de lever les genoux et tout. Ça, chacun fait comme il veut, non ?
Si tu dois arriver dans ton sas,
c'est toujours marrant comme truc, mais je trouve que personne le fait. Alors après, peut-être que moi, je suis dans des mauvais sas, mais allez, maintenant, on fait ça, on fait ci. Ouais, super.
Mais ceux qui sont dans le sas depuis 45 minutes à se geler, je peux comprendre qu'ils montent les genoux encore 5 minutes avant le départ.
C'est
sûr. Parce que les pauvres. C'est pas évident, mais c'est vrai que les jours d'avant, franchement, beaucoup dormir, bien boire, bien s'alimenter, se faire sa petite mobilisation et préparer ses affaires, c'est juste, faut juste penser à ça. On s'entraîne plus, donc on a que ça à penser, donc c'est quand même c'est ultra important. Ouais.
Exactement. Marie-Ange, quelque chose à rajouter ? Est-ce que tu as un conseil en préparation avant une course ou non, tout a été dit ?
Tout a été dit, vraiment, au départ, il faut rester calme, il n'y a plus que ça à faire, parce que c'est vrai que le marathon, il faut partir tranquillement et... Et le départ te donne envie de faire exactement l'inverse. Donc, il faut être très concentré pour rester au zen.
Et c'est dur pour toi parce que c'est dur. Toi, tu as fait beaucoup de très, très beaux marathons, Marie-Ange. Bon, tu es venue plusieurs fois à Paris, mais tu fais les marathons américains. Tu as fait New York. Je crois savoir que tu vas faire Boston. Là, tu es galvanisé par l'ambiance qui règne. Hein, donc là, c'est dur de rester calme aussi parfois.
C'est juste de rester calme. Mais bon, le plus on s'entraîne, le plus on sait le faire. Hein. Après, tous les marathons, que ce soit Paris, que ce soit ici aux US, le départ est toujours excitant. On s'entraîne pendant des mois.
Ah oui, c'est sûr.
Et on attend ce moment. On est tellement content de partir. Et puis, on est très frais au départ. Donc, c'est bien. Mais il faut vraiment... Voilà, tu restes au calme dans ta petite bulle. Et puis...
Et voilà.
Et puis c'est parti doucement.
Et si vous nous écoutez dimanche matin, vous aurez une forte pensée pour Johan Durand qui s'apprête à partir pour le marathon de Séville. Une forte pensée également pour Geoffrey Charpie qui va découvrir le marathon à Séville avec toi. Hein. Derrière toi, hein, mon petit Yodu.
Devant, je veux le voir devant.
Ah ouais, bah non, oh, ça va pas, non.
Avec ses chaussettes bicolores.
Ah ouais, laisse tomber.
Il va être dans un état. Prévoir comme look.
Il va être dans un état de stress, celui-là. Voilà, on le connaît. Mais tout va bien se passer. Voilà, si vous le croisez, n'hésitez pas à l'encourager aussi. Merci Marie-Ange d'avoir été avec nous, c'était passionnant de t'écouter encore une fois. On te retrouve rapidement Marie-Ange, tu reviendras quand tu veux dans RMC Running, hein, d'accord ?
Ça marche, à très bientôt, bonne chance à Séville et merci à vous deux.
Eh ben merci Marie-Ange. Yodu, tu sais tout ce qu'on te souhaite, le meilleur possible, la prépa a été excellente, il n'y a plus qu'à désormais. Donc fais-toi plaisir, on est tous derrière toi et on va t'encourager au bord de la route à Séville. Je compte sur vous, hein, communauté française, poussez le maître voilà. Yodu pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Merci Yodu, merci Marie-Ange.
Merci à tous.
Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.